VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Togo, poursuite des travaux préparatoires en vue du dialogue politique qui démarre lundi prochain dans la capitale. Le gouvernement du président Faure Gnassingbé va y négocier avec une coalition de 14 partis d'opposition. En attendant, la première journée des travaux préparatoires hier a été fructueuse. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Plus de 4 heures d'horloge, c'est le temps qu'ont duré les discussions de cette première journée du comité préparatoire du dialogue. Daniel Osei, membre de la facilitation ghanéenne.
Les deux partis, c'est-à-dire le parti Unir et les 14 partis de l'opposition, se sont réunis pour définir le règlement intérieur qui va gérer le dialogue prévu pour le 19. Pour le moment, nous préférons nous limiter au fait que le comité préparatoire s'est réuni et a fait beaucoup de progrès. Quand les travaux seront terminés, vous saurez tous les détails qui ont été discutés.
Ce vendredi, les travaux vont se poursuivre probablement avec les mesures d'apaisement. Avant le début de la rencontre, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a martelé que les mesures d'apaisement constituent le chemin qui conduira au dialogue.
Ça n'a jamais dépendu de nous. On a souhaité depuis longtemps que les mesures d'apaisement soient réglées pour qu'on entre dans le vif du sujet. Peut-être que bientôt on va rentrer dans le vif du sujet avec la réalisation des mesures d'apaisement.
Le comité préparatoire poursuivra donc sa tâche ce vendredi après-midi. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, l'opposition réclame une commission électorale consensuelle. Elle se fonde sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui exige la modification de la commission actuelle. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
D'après l'arrêt de la Cour, le gouvernement ivoirien a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial. Les deux factions rivales du Front populaire ivoirien FPI ont donc saisi la balle au bon pour demander la mise en place d'une nouvelle commission électorale consensuelle. La commission électorale indépendante, ou CEI, est composée par 8 membres du pouvoir et 4 de l'opposition. Pascal Afingessan, de l'une des tendances FPI, a estimé qu'un acteur engagé dans une compétition ne doit pas dominer l'instrument de sa régulation. De son côté, Abdourahmane Sangaré, chef des frondeurs du FPI, a demandé un dialogue avec le régime Ouattara, précisant qu'il ne voit pas l'intérêt d'aller à une élection en cas de rejet des discussions. Les élections municipales et régionales sont prévues cette année. En revanche, le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a rejeté les critiques contre la CEI. Pour lui, la commission est le fruit d'un consensus entre tous les acteurs politiques avant les dernières présidentielles de 2015.
République démocratique du Congo, l'UNICEF affirme avoir documenté 76 cas de personnes tuées à l'arme blanche depuis décembre en Ituri, région de l'est du pays proche de l'Ouganda. Chiffre mis en cause par les autorités. L'UNICEF se dit très préoccupé par la situation de plus de 45 000 enfants qui sont en fuite à cause des violences entre les communautés d'éleveurs Hema et d'agriculteurs Lindou. Le gouvernement congolais a promis de renforcer le déploiement de la police avec commission de traquer tous les fauteurs de troubles. La crise politique au Burundi maintenant, la plateforme de l'opposition en exil, le Sénared, dénonce l'enrôlement forcé d'électeurs en vue du controversé référendum constitutionnel qui est prévu en mai et pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Ce qui se passe est inadmissible, affirme Tatien Sibomana, un des rares leaders d'opposition n'ayant pas choisi l'exil malgré la crise depuis avril 2015. Le Sénared évoque le peu d'engouement de la population pour ce référendum. Au moins 50 militants ont été arrêtés depuis la mi-décembre, accusés de promouvoir le nom.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Tanzanie, l'ambassade des États-Unis dénonce la violence dans le pays après la mort d'un opposant. Washington appelle à une enquête transparente. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les États-Unis se disent attristés par les informations faisant état de l'enlèvement et de la violence qui ont conduit à la mort de l'opposant Daniel John. D'après le communiqué de l'ambassade américaine, publié sur son site Internet, l'escalade des confrontations et de la violence à caractère politique est inquiétante, appelant toutes les parties à sauvegarder la paix et la sécurité du processus démocratique. Daniel John était un responsable du Chadema, principal parti d'opposition. D'après son parti, il a été enlevé lundi en pleine rue avant d'être retrouvé mort mardi dans un hôpital de Dar es Salaam, le corps marqué de coups de machette. Freeman Mbowe, chef de l'opposition au Parlement, assure que cet assassinat est lié à la campagne électorale et a été perpétré par la Ligue de jeunesse du parti au pouvoir. Des élections partielles sont prévues ce week-end dans plusieurs circonscriptions pour remplacer des députés et élus locaux démissionnaires. Dimanche dernier, les évêques catholiques ont regretté ces tensions et dénoncé les violations des principes démocratiques et de la liberté d'expression par le gouvernement de John Magufuli.
Quant à l'ambassade des États-Unis au Soudan, elle a exprimé hier ses inquiétudes après l'arrestation de centaines d'opposants par les autorités soudanaises. Les précisions d'Anastasie Toudiech.
Nombre d'entre eux sont détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes et n'ont accès ni à leur avocat ni à leur famille, affirme l'ambassade américaine à Khartoum. Parmi les personnes arrêtées, le numéro 2 du principal parti d'opposition, le secrétaire général du Parti communiste soudanais et des militants. Le communiqué de l'ambassade intervient dans un contexte de rapprochement entre Washington et Khartoum après la levée d'un embargo américain vieux de 20 ans contre le Soudan. En 2016, le pays avait déjà été le théâtre d'un mouvement de protestation réprimé qui avait fait des dizaines de morts selon des groupes de défense des droits de l'homme. Les ambassades européennes à Khartoum ont également appelé à la libération des manifestants. Ces derniers dénonçaient la cherté de la vie après l'augmentation des prix du carburant.
En Afrique du Sud, le nouveau président Cyril Ramaphosa s'est engagé devant le Parlement à éradiquer la corruption qui mine le pays. Le chef de l'État a été officiellement élu jeudi suite à la démission mercredi soir de son prédécesseur Jacob Zuma. Monsieur Ramaphosa a indiqué qu'il donnera aujourd'hui les détails de certaines de ses propositions lors de son premier discours sur l'état de la nation à 17h temps universel. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint la chercheuse à l'Institut d'études de sécurité à Pretoria, Lys Louvre-Vaudran.
Je pense que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Afrique du Sud. Après 10 ans presque de règne de Jacob Zuma, beaucoup de gens autour de Jacob Zuma ont été accusés de corruption. Et donc, Ramaphosa vraiment mène avec lui un vent d'espoir parmi même l'opposition. Il y a un espoir que Cyril Ramaphosa va non seulement éradiquer la corruption, mais vraiment travailler pour améliorer l'économie du pays, encourager les investissements, redorer le blason d'un pays qui a tous les potentiels. Et sous Nelson Mandela et à Bombay, qui était vraiment sur des bons rails. Et pour lui, ça ne va pas être une tâche facile du tout, parce qu'il y a des problèmes structurels dans l'économie sud-africaine. Il y a le chômage, il y a des problèmes dans le secteur minier, chômage des jeunes. Aussi, on a un grand problème dans notre système d'éducation qui sont profondes et qui vont être très difficiles à améliorer sur le court terme. Mais au moins, aujourd'hui, tout de suite, la bourse de Johannesburg a explosé aujourd'hui. Le rand de la monnaie a gagné en valeur. Au moins, il y a un espoir de nouvelle époque.
Ramaphosa, il était vice-président de Jacob Zuma. Comment peut-on percevoir ce changement comme un renouveau?
Ça, c'est une question qu'on pose souvent, mais lui-même, personnellement, n'a jamais été accusé de corruption. Il n'est pas du tout impliqué dans des scandales autour de Jacob Zuma. Donc, on va voir dans les prochains jours. Beaucoup d'analystes pensent qu'il y aura un nouveau gouvernement avec plusieurs nouveaux ministres. Donc, Cyril Ramaphosa va être obligé de nettoyer un peu autour de lui dans les rangs de l'ANC et mettre ses hommes et ses femmes qui sont de son camp au gouvernement. Sinon, ça ne va jamais marcher parce que ça va être une équipe divisée, profondément divisée d'ailleurs.
Quelle leçon faut-il tirer?
La démocratie est unique et le système gouvernemental électoral est aussi unique. Et je pense qu'on va beaucoup réfléchir sur ce système. Vous voyez, ce n'est pas un système présidentiel, donc nous n'avons pas des élections présidentielles. Tout repose sur le parti et quelque part, le pays tout entier est parfois pris en otage par le parti au pouvoir.
Lise Lou Vaudran de l'Institut d'études de sécurité à Pretoria en Afrique du Sud. Et pour terminer, ici aux États-Unis, veillé hier soir en Floride en hommage aux victimes du tueur de Parkland. Avant-hier, Nicolas Cruz, un jeune homme de 19 ans, a tué 17 personnes et en a blessé 15 dans un lycée de la ville. Le tireur se retrouve maintenant en détention et sous le coup de 17 chefs d'accusation pour meurtre avec préméditation. Merci de votre attention.